Il est 8h.
Je pense que la raison l'emporte sur les craintes et la peur, et qu'il n'y a pas de preuve probante que l'AstraZeneca est moins efficace ou plus dangereux qu'un autre vaccin. Tout le contraire.
La raison l'emporte, dit ce vaccinateur, à Tournai, en Belgique. C'est l'un des pays où l'on a continué à injecter les doses d'AstraZeneca sans crainte et sans perdre de temps, alors que chez nous, le virus, véritable maître des horloges, oblige à de nouvelles restrictions annoncées ce soir. La crise sanitaire qui a changé même le contenu de nos poubelles, 400 tonnes de masques jetées chaque jour en France, plus largement c'est toute notre filière du recyclage qui doit progresser. Et puis face aux sous-marins ennemis qui chatouillent nos côtes et nos navires de guerre, la France va de nouveau fabriquer ses propres bouées acoustiques. À 8h15, l'invité de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. C'est un jour sans fin, un vrai faux suspense avant les annonces ce soir de Jean Castex. Alors je vous propose ce matin une vue d'ensemble et un peu de recul avec notre invité, Axel Kahn, généticien, médecin. Il est aussi le président de la Ligue contre le cancer. Rendez-vous à 8h15.
Juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h avec vous, François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. La situation est assez ironique avec cette agence européenne des médicaments, autrefois basée à Londres, rapatriée à Amsterdam en raison du Brexit, et qui doit rendre un avis capital pour un vaccin développé en Angleterre et administré là-bas à tour de bras. Le produit d'AstraZeneca déclenche-t-il des thromboses? Cette question et le principe de précaution avaient conduit Emmanuel Macron à tout bloquer en France, comme l'avait fait l'Allemagne.
Pourtant, l'OMS et les autorités d'autres pays européens maintiennent que la balance bénéfice-risque est en faveur de ce vaccin. Et on va le voir en Belgique avec ce reportage de Lionel Gougelot. Les injections continuent à pleine vitesse.
On s'en fout, de toute façon, AstraZeneca, je crois qu'il est aussi valable qu'un autre, vous savez.
Aucun état d'âme pour Thérèse, vaillante octogénaire, qui vient de recevoir sa première injection.
Des thromboses, il y en a dans la vie tous les jours et on n'en fait pas de maladie.
Bonjour monsieur, bienvenue.
Environ 1500 personnes vaccinées chaque jour à l'AstraZeneca dans cette vaste salle de sport transformée en vaccinodrome.
Ça ne me fait pas peur. Prends le cas en Angleterre, il y a 10 millions de gens qui ont été vaccinés, on n'entend rien quoi. Moi j'ai confiance.
Et même si certains s'interrogent sur la suspension du vaccin en Europe et le principe de précaution...
Mais j'espère que notre gouvernement va faire la même chose s'il y a un problème.
Brigitte, l'infirmière, est là pour dissiper les craintes.
Bon, on essaye de rassurer, ben oui, parce que de toute façon, si on ne veut pas le faire, on ne sera jamais sorti de cette galère, comme on va dire. Hein.
En Belgique, le ministre de la Santé a jugé irresponsable l'hypothèse d'une suspension de la campagne de vaccination. Jawad Larwazi, directeur du centre de Tournai.
Je pense que la raison l'emporte sur les craintes et la peur, et qu'il n'y a pas de preuves probantes qui démontrent que l'AstraZeneca est moins efficace ou plus dangereux qu'un autre vaccin. Tout le contraire.
Alors ici, on attend des renforts de doses de vaccin AstraZeneca pour augmenter encore la cadence de la vaccination. À Tournai, Lionel Gougelot, Europe 1.
Ce soir, 18h, début du couvre-feu quotidien et de la conférence de presse hebdomadaire. C'est Jean Castex qui sera au pupitre alors qu'actuellement, les réanimations en Île-de-France sont occupées à 101%.
Louis Dragnel nous le disait à 7h, Emmanuel Macron n'a pas encore décidé.
Et les consultations qu'il mène encore aujourd'hui avec des élus locaux peuvent encore peser, comme hier soir quand il a échangé avec Arnaud Péricard, le maire de Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines.
Le président a reconnu que ça allait être compliqué sur les prochaines semaines, que ça allait monter sur tout le territoire, et principalement sur l'Île-de-France. Je pense que le président a donné un horizon de temps en nous disant qu'avec une vaccination de 10 millions de Français au 15 avril, il fallait attendre la fin avril pour que la situation commence un petit peu à s'embellir. Il a dit qu'il avait quelques heures pour travailler sur le scénario qui serait retenu. Il l'a dit, il y aura des mesures de freinage supplémentaires. Est-ce qu'elles prendront la forme d'un confinement le week-end? Très honnêtement, je le pensais. Je le pense un peu moins à l'issue de cette visio, parce qu'il a reconnu qu'il était compliqué de mettre en place un système de confinement le week-end avec le rythme de vie francilien. C'est compliqué d'entrer chez soi en semaine du travail. Il y a des bouchons, il y a de l'intensité, il y a de la densité. Il l'a dit lui-même, on ne peut pas demander aux gens d'avoir un effort de travail pendant 5 jours et de poser le couvercle sur la marmite le week-end.
Arnaud Péricard, joint par Caroline Baudry pour Europe 1.
Cette pandémie qui a tout bouleversé ne nous a pas rendus plus écolos. Au contraire.
Oui, entre les commandes sur Internet, la vente à emporter de nourriture avec son conditionnement jetable et notre consommation de masques, nos poubelles ont pris du poids. Et en cette journée internationale du recyclage, on a été frappé ce matin d'entendre au micro de Sébastien Krebs dans le 5-7 d'Europe 1 ce chiffre donné par Nathalie Gontard, directrice de recherche à l'INRA.
Seulement 1 à 2% de tous les plastiques que nous utilisons sont recyclés. Et ceux qui sont recyclés, ce sont uniquement les bouteilles. Donc les bouteilles sont broyées, elles sont nettoyées, elles sont décontaminées et ensuite on refabrique soit des bouteilles d'ailleurs, soit des barquettes.
Bonjour Jean-Sébastien Soldaini.
Bonjour.
1 à 2% seulement du plastique est recyclé. Pourquoi un chiffre aussi bas ?
Eh bien parce qu'il y a trop de plastiques différents, avec des caractéristiques qui leur sont propres, donc des méthodes de recyclage différentes. Il faudrait une filière pour traiter chacun d'entre eux de A à Z, c'est-à-dire de la collecte au recyclage en passant par le tri, et ça c'est impossible. Si vous mettez de côté le plastique, l'état du recyclage en France est plutôt satisfaisant pour le papier et le carton. 96% des emballages sont recyclés, le verre, c'est 76%.
Alors en entendant cela, Jean-Sébastien, on se demande, est-ce que ça sert à quelque chose finalement de faire le tri à la maison ?
Évidemment qu'il faut continuer à faire son tri. Ce qu'il faut, c'est l'optimiser. Dans le cas du verre, il faudrait envisager de réutiliser plusieurs fois les bouteilles avant de les recycler. Or, ce n'est pas le cas, elles sont recyclées trop tôt, parfois même dès la première utilisation. Il faut aussi que ce tri soit mieux fait, plus de pédagogie, parce que dans le bac des ordures ménagères, les Français mettent encore 40% de déchets qui pourraient être recyclés.
Et quand on parle de recyclage, est-ce que c'est forcément non polluant ?
Eh bien non, le recyclage c'est une industrie qui n'est pas neutre. Il faut de l'eau, de l'électricité. Pour le plastique, Flore Berlingen, auteur du livre « Recyclage, le grand enfumage », décrit un serpent qui se mord la queue.
Le recyclage ne se fait pas à l'infini, sans aucune perte, au contraire. Et notamment dans le cas du plastique, la perte de qualité à chaque cycle de recyclage, elle est importante. Et donc, ça oblige à ajouter de la matière première vierge, c'est-à-dire du plastique issu du pétrole.
Alors, attention, il vaut mieux toujours recycler que rejeter dans la nature, évidemment.
Oui, c'est bien de le dire aussi. Alors, Jean-Sébastien, est-ce qu'il y a des moyens tout de même qu'on peut mettre en place pour éviter tout ça, des innovations ?
Oui, il y en a. Il y a une entreprise française qui s'appelle Carbios qui a peut-être trouvé la solution. Ce sont des enzymes capables de dégrader les différents plastiques, qu'ils viennent des emballages, des bouteilles ou encore de nos vêtements. Il y a aussi la possibilité de fabriquer du plastique à partir d'écailles de poissons. C'est biodégradable, mais il ne faut pas non plus vider les océans. Ce ne sont pour l'instant que des solutions à petite échelle. La bonne idée, assure une experte, c'est de standardiser, de n'utiliser que 4 à 5 sortes de plastiques différents pour optimiser le recyclage.
Dossier signé Jean-Sébastien Soldaini. Merci Jean-Sébastien.
Aux États-Unis, le suspect inculpé des fusillades qui ont fait 8 morts dans des salons de massage autour d'Atlanta avant-hier se présente comme un obsédé sexuel qui voulait supprimer une tentation à travers ces établissements.
Joe Biden, lui, prévient qu'il sera difficile de retirer les troupes américaines d'Afghanistan au 1er mai, comme le prévoit un accord passé l'année dernière avec les talibans.
Les talibans qui protestent déjà. Il faut dire que sur le terrain, la violence continue et les négociations entre les différentes formations afghanes piétinent. Un Français, Jean Arnaud, est nommé par le secrétaire général de l'ONU comme envoyé spécial des Nations Unies pour l'Afghanistan.
Vous restez avec nous, vous saurez tout dans un tout petit instant de ces bouées de détection des sous-marins. La France va de nouveau en fabriquer.
Et puis Neymar, il est blessé mais ultra présent sur le terrain des jeux vidéo.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 8h10, la suite du journal, François Geffrier.
Qui aurait dit qu'une bouée pouvait être stratégique en matière de défense ? La ministre des Armées, Florence Parly, annoncera aujourd'hui que la France va de nouveau fabriquer ses propres bouées acoustiques, équipement de détection des sous-marins.
Bonjour Aude Leroy.
Bonjour.
Spécialiste des questions militaires à Europe 1. La France avait besoin de retrouver sa souveraineté dans ce domaine.
Oui, l'enjeu est important. Aujourd'hui, la France achète ses bouées acoustiques aux Américains. Mais voilà, la menace sous-marine s'amplifie. Des sous-marins russes rôdent le long des côtes françaises, jusque dans le golfe de Gascogne. La Méditerranée, elle, abrite des sous-marins algériens et turcs. Toujours plus nombreux, plus perfectionnés, discrets évidemment. Alors fabriquer ces bouées acoustiques pour les repérer et les identifier est essentiel pour la France, car assure Vincent Groiselot, rédacteur en chef du site Mer et Marine, la menace est omniprésente.
C'est non seulement les approches de nos côtes, c'est non seulement nos bases navales, y compris la base de nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins devant Brest, mais c'est aussi la protection du Charles de Gaulle quand il part en mission, c'est la protection du trafic maritime qui traverse le monde entier, par exemple les lignes Asie-Europe, hein, ou le golfe Persique vers l'Europe. Ces lignes-là, le sous-marin adverse est susceptible de les couper, et donc dans le cadre éventuellement d'un conflit explique. Il faudrait aussi avoir ces moyens-là pour débusquer le sous-marin, l'empêcher d'approcher et le neutraliser au besoin.
Chaque année, la France utilise entre 4000 et 7000 bouées acoustiques, un chiffre appelé à augmenter dans les prochaines années.
Aude Leroy, le jeu vidéo à l'honneur hier soir pour la cérémonie des Pégase, les trophées de ce secteur. Mathieu, vous étiez d'ailleurs en tête-à-tête à 7h40 avec le patron du studio Asobo, à qui on doit la dernière édition de Flight Simulator, sacré meilleur jeu français et qui nous permet comme ça de prendre les commandes d'un A320 ou d'un petit avion de voltige.
Et si vous rêvez plutôt de revêtir le maillot de Neymar, ce sera bientôt possible, là encore dans un jeu vidéo hors jeu de foot évidemment.
Oui, c'est pas FIFA. La star du PSG vient de signer avec Fortnite, qui est un phénomène, hein, qui rassemble 300 millions de joueurs dans le monde. Un partenariat totalement logique finalement, vu la façon dont Neymar lui-même occupe ses soirées en ce moment. Simon Rubin.
Ces derniers temps, Neymar a fait davantage parler de lui pour ses performances de gamer que pour son jeu sur les terrains. Blessé avec le PSG, ça ne l'empêche pas de jouer à des jeux vidéo en ligne toutes les nuits. Et même quand il n'est pas blessé, d'ailleurs, il passe 2 à 3 heures par nuit à jouer. Et si on le sait, c'est parce que ces données sont publiques, hein, tout est consigné sur un site internet. Voilà comment on découvre que le 10 mars dernier, par exemple, Neymar, après avoir suivi le match du PSG contre Barcelone au stade, a passé une partie de la nuit à jouer au jeu de tir Counter-Strike sur les coups de 2h du matin. Et c'est comme ça, toutes les nuits, sans aucune exception, des sessions de jeu à minuit, 1h, 2h du matin pour un joueur censé prendre soin de son corps pour revenir en forme. La dernière fois que Neymar a passé une nuit sans jouer, il avait une bonne excuse. C'était le 10 février dernier. Ce soir-là, il était sur le terrain contre Caen. Et il s'était blessé.
Et voici une info qui peut éventuellement intéresser Neymar, bien qu'il s'agisse de football. Le Bayern Munich et Chelsea se qualifient pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et rejoignent notamment le PSG de Neymar, mais aussi Manchester City, Liverpool, ainsi que Dortmund, Porto et le Real Madrid.
Faut pas m'en vouloir François, mais s'il joue vraiment jusqu'à 2-3 heures du matin, je suis pas sûr qu'il ait entendu la fin du journal des 8 heures ce matin. Je suis désolé pour vous François, mais je prends l'info moi, ça m'intéresse. François Geffrier, c'était le journal de 8 heures sur Europe.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Dans quelques toutes petites secondes, l'invité de Sonia Mabrouk, le généticien Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h16 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité. Ce matin, le professeur Axel Kahn, généticien et président de la Ligue contre le cancer.
Bienvenue à vous et bonjour Axel Kahn.
Bonjour Sonia Mabrouk.
C'est un vrai faux suspense, usant et lassant, il faut le dire, avant les annonces ce soir d'un probable reconfinement en Île-de-France et dans les Hauts-de-France. On a l'impression, Axel Kahn, d'un retour à la case départ. Est-ce que c'est le cas ?
Je crois, mais je me suis décidé à ne plus commenter les retards d'origine uniquement politique de la prise des décisions qui s'imposent d'un point de vue sanitaire. Je suis le président de la Ligue contre le cancer, on en reparlera. L'épreuve subie par les personnes malades qui ont des maladies chroniques graves du fait de la surcharge hospitalière, de l'importance des foyers hospitaliers, ce sont des épreuves terribles, qui laisseront des séquelles, qui laisseront des gens au tapis, et j'ai assez à faire, quelle que soit la décision des politiques, pour aider les personnes concernées du mieux que je le peux. Cela dit, si je faisais une analyse, on va dire, de la gestion politique de la crise sanitaire, alors je n'entrerais pas dans le détail. Mais cette analyse serait très sévère.
On a compris donc votre avis. Le bénéfice sanitaire du reconfinement, Axel Kahn, à venir, est-il plus important que le coût social, le coût économique, le coût psychologique, le coût psychiatrique que l'on va payer ?
Aujourd'hui, le confinement est très difficile. Il est très difficile parce qu'on rentre dans la période de printemps. Être confiné au printemps, ce n'est pas exactement la même chose qu'être confiné en hiver quand il fait extrêmement mauvais, même s'il ne fait pas vraiment beau maintenant. D'autre part, comme on part d'un taux de circulation virale extrêmement élevé, on va être obligé de confiner pendant plus longtemps. Comme le taux de circulation est extrêmement élevé, la tension hospitalière est maximale absolument partout, les perspectives s'éloignent et donc ce reconfinement aujourd'hui, on va dire à la dernière limite, le couteau sous la gorge, en dernière extrémité, est la pire des choses. Je vais vous dire...
La pire des choses ?
Oui, je crois, la pire des choses, on ne peut
bien
pas
sûr,
faire autrement.
Bien sûr.
Mais c'était la pire des solutions. Je suis, moi, de tradition catholique, chrétienne, Pâques est relativement importante. Vous rendez-vous compte, Sonia Mabrouk, que parce que on ne s'est pas résolu à reconfiner un coup après Noël, à reconfiner un coup avec les gamins en vacances. En février, on va reconfiner au week-end de Pâques. Quand même. Vous voyez la belle affaire ?
Je n'ai pas besoin de vous poser la question, Axel Kahn, si le pari ou du moins la stratégie du président Macron, qui était celle de ne pas reconfiner, de tenir sur une ligne de crête, était une bonne stratégie. On vous a entendu clairement là.
Oui.
Pour vous, chaque jour a été un jour perdu et pas un jour gagné de nos reconfinements.
D'un point de vue politique, je comprends. Emmanuel Macron a voulu se présenter comme le sauveur des Français qui les protégeait de ce confinement qui est une potion terriblement amère dont ils sont totalement lassés. Et il s'est dit, il y a un créneau, comme il considère que maintenant il connaît tout de l'épidémiologie, je vais peut-être y parvenir, et si j'y parviens, banco. Alors le bénéfice en termes politiques, alors même que l'on est l'année précédente, l'année électorale, sera considérable. Maintenant le président, mais c'est de la politique, donc je ne m'en mêle pas, le président aura à gérer l'échec de ce pari. Alors il dit
l'échec,
maintenant,
c'est le mot, hein, il est lancé. Pour vous, c'est un échec.
Non, mais ça c'est un échec. Ça n'est pas une analyse. Je veux dire que la totalité des commentateurs doit constater que le président a fait un pari. D'ailleurs, il l'a reconnu. À un moment donné, il a dit le maître du temps, c'est le virus. Ça veut dire que contrairement à ce que j'avais espéré, je ne suis pas le maître du temps. Le maître du temps, c'est le virus. Alors là où la critique quand même, j'ai dit que je ne critiquerai pas, mais simplement une observation. Rien de ce qui se passe aujourd'hui, rien n'était imprévu. Rien. En réalité, depuis la fin du mois de décembre, même le milieu décembre, on est certain que le variant anglais va dominer sur toute l'Europe et notamment en France. Tout simplement parce qu'il est 1,6 à 1,7 fois plus infectieux. Et ça, c'est un mécanisme fondamental du vivant. On sait très bien qu'il y avait un taux d'incidence très important à l'Est et à l'Ouest, qui, eux, ont confiné, ont pris vraiment des mesures extrêmement importantes. Et donc, on a pris le risque de ne pas baisser la circulation virale. Dans ces conditions-là, alors que l'on savait très bien qu'un variant beaucoup plus infectieux était certain de s'imposer. Donc, on ne va pas dire qu'on a été pris par surprise. J'ai entendu des discussions avec le Premier ministre qui indiquent qu'on ne pouvait pas prévoir une telle explosion des cas. Monsieur le Premier ministre, j'ai un infini respect, évidemment, pour votre fonction et la manière dont vous exercez le pouvoir. Mais ce que vous dites là est inexact. Non seulement on pouvait le prévoir, mais la plupart des spécialistes le prévoyaient. Et donc, la bonne stratégie était de continuer sur la lancée qui était la lancée du président Emmanuel Macron en octobre. C'est-à-dire qu'on fait tout pour essayer de diminuer la circulation virale. Et ensuite, lorsqu'elle est basse, on maintient. Un dernier point, regardez l'Allemagne qui, elle aussi, connaît un rebond. Mais elle avait fait baisser sa circulation virale à 50 personnes contaminées par 100 000 habitants, le taux d'incidence. Ce n'est pas pareil d'augmenter quand on est à 50 et d'augmenter quand on est à 235. Ce n'est pas pareil.
Axel Kahn, peut-être cette stratégie de non-confinement n'était valable qu'en cas d'accélération de la vaccination, parce que c'est évidemment essentiel. Et en plus, nous attendons le verdict sur AstraZeneca aujourd'hui. Très sincèrement, le destin et la réputation de ce vaccin sont-ils entamés ?
Écoutez, oui, sans doute. Je pense que l'Agence européenne du médicament va indiquer ce qui est vrai, ce qui est incontestable, que les bénéfices du vaccin l'emportent de loin sur les risques. Cela étant dit, il semble bien, en effet, que la particularité de ce vaccin entraîne chez certaines personnes des accidents un peu spécifiques de très 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 basse fréquence. Ce que je n'ai pas compris du tout, c'est la frénésie qui a pris d'un seul coup.
Mais pourquoi ? Est-ce qu'on a manqué ? Est-ce que les médecins ou est-ce que certains scientifiques ont manqué de sang-froid ?
Oui, ils ont manqué de sang-froid. Ils ont manqué de sang-froid parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Un bon médicament et un bon vaccin, le vaccin AstraZeneca est un bon vaccin, est mis sur le marché et on commence à l'utiliser sur des millions de personnes. Dans ces cas-là, si vous voulez, se met en place un processus que l'on appelle la pharmacovigilance. C'est-à-dire qu'en conditions réelles de traitement, on regarde si ce qu'on n'a pas pu voir sur des essais cliniques limités apparaît. Là, on voit Je rappelle quand même, en Allemagne par exemple, 6 personnes atteintes d'une complication thrombotique extrêmement grave et une coagulation intravasculaire, 6 femmes, 1 homme, 2 meurent en quelques jours, plus de cas qu'il y en a habituellement en un an. Et donc, en effet, il peut y avoir quelque chose. Donc, dans tous les cas, dans n'importe quel médicament, dans ces cas-là, la pharmacovigilance exige que on fasse une pause pour y regarder de plus près, je vais vous dire.
Mais imaginez. Pourquoi, mais pourquoi alors la Grande-Bretagne ne l'a pas fait? Ils vaccinent massivement, massivement avec cette AstraZeneca.
Alors la Grande-Bretagne, il y a plusieurs hypothèses, je n'en sais rien, vous me demandez, je n'en sais rien. Il y a deux hypothèses. La Grande-Bretagne a peut-être, on va dire, tenu à rester extrêmement discrète sur des effets très minoritaires, c'est vrai, en considérant qu'il y avait un tel avantage à vacciner qu'il fallait avant tout pousser la vaccination. L'autre possibilité, c'est que la caractéristique du vaccin AstraZeneca, c'est d'être un vaccin vivant. C'est un adénovirus de chimpanzé vivant dans lequel on a mis l'ADN qui code la protéine de spicule du coronavirus. C'est très difficile de standardiser totalement des lots d'un virus vivant, d'un vaccin vivant qui est produit en Corée, en Italie, en Belgique, en Grande-Bretagne, etc. Donc l'autre hypothèse, c'est qu'il s'agisse de lots différents et que certains lots entraînent plus particulièrement ces réactions inflammatoires. Je connais bien les vaccins. J'ai travaillé dans le domaine des vaccins. J'ai été directeur
pendant de nombreuses années, hein, en lien évidemment
absolument
avec les laboratoires.
J'ai
dans
été
ce
directeur
domaine
scientifique de Rhône-Poulenc-Rorer alors qu'il y avait Mérieux Pasteur dans notre portefeuille. Quand j'ai vu la fréquence avec laquelle il y avait ces syndromes grippaux, un peu cognés, bénins mais un peu cognés, chez les jeunes personnes, j'ai été étonné. Parce que je ne me rappelle pas avoir vu un vaccin donnant cela. Mais enfin, peu importe, il marche bien, c'est vrai qu'il marche tout à fait bien. Cela étant dit, il faut bien évidemment se demander pourquoi. Alors maintenant, est-ce que c'est dramatique? Non, ce n'est pas dramatique.
Non, parce qu'il y a d'autres vaccins qui arrivent.
Parce qu'il y a tout plein d'autres vaccins qui vont arriver, qui sans doute posent moins de problèmes. Il faut vacciner, 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 naturellement. Il ne faut pas que les gens... Au contraire, si un vaccin pose un petit problème et qu'on est amené à prendre toutes les précautions. Voyez, si par hasard, ce vaccin entraînait des thromboses chez des jeunes femmes sous pilule, parce que la pilule, elle aussi, entraîne une hypercoagulation. Évidemment, la conséquence, c'est qu'il ne faudrait pas vacciner avec AstraZeneca des jeunes femmes sous pilule. Et donc, évidemment qu'il faut y regarder. Que des collègues...
Ah, très bien. Donc l'Agence européenne du médicament, certainement tout à l'heure en donnant son aval, peut dire pour certaines catégories
absolument
de population... Voilà,
absolument,
ça c'est important.
Elle peut le faire,
s'il y a...
mais on est dans le processus normal de la pharmacovigilance. Et certains de mes collègues qui sont excités tout plein, je ne comprends pas.
C'est à bon entendeur. Je voudrais qu'on conclue avec votre livre, Axel Kahn, intitulé « Et le bien dans tout ça ?» Parce qu'il y a une réflexion très importante dans ce livre autour de la mort, notre rapport à la mort. Mais c'est une réflexion finalement sur la vie, votre expérience. L'expérience de vie est très importante. Nous sommes loin aujourd'hui de reprendre une vie normale. S'il y avait un mot, un encouragement ce matin pour nos auditeurs et nous tous, quel serait-il?
Ah, l'encouragement principal, c'est qu'il est sûr qu'on va continuer à vivre. Il est sûr que l'on va continuer à pouvoir être heureux. Il est sûr que l'on pourra continuer à aimer, éventuellement à faire des enfants et à construire différemment. Mais en effet, il y a des modifications qui seront importantes. Et ce qui est singulier dans cette pandémie, ce n'est pas tellement qu'elle soit sévère. Oui, elle est sévère, mais tous les siècles, il y a des pandémies. Il y en a toujours eu et il y en aura. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est que cette pandémie sévère, sérieuse, rencontre un état de la société, une fierté dans le développement, un refus total de l'acceptation de la mort, qui fait que la réaction sociétale du monde entier a créé ce que nous connaissons.
Et tout ça est à découvrir notamment dans votre livre « Et le bien dans tout ça » aux éditions Stock. Un peu de réflexion, de recul et une vue d'ensemble, ça fait du bien, vous aurez écouté plus longtemps. Merci Axel Kahn.
Merci beaucoup Sonia Mabrouk. Il est 8h28 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
À suivre la météo et l'info. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h31 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Marion Calais.
18h ce soir, conférence de presse du Premier ministre Jean Castex pour détailler une nouvelle salve de restrictions. Malgré le couvre-feu, les contaminations progressent, les services de réanimation restent saturés. Hier, devant des soignants de l'hôpital de Poissy, Emmanuel Macron a évoqué des mesures territorialisées. Deux régions pourraient être concernées, Louis Dragnel.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les principales restrictions devraient concerner deux régions, l'Île-de-France et les Hauts-de-France, et peut-être une petite dizaine de départements limitrophes, avec une mise en application à partir de ce week-end. Une quasi-certitude, les écoles et les crèches ne devraient pas fermer. Ensuite, deux possibilités ont été présentées à Emmanuel Macron pour ces territoires. La première, poussée par Jean Castex et Olivier Véran, projection sanitaire à l'appui, un confinement 7 jours sur 7 pendant une durée de 3 à 5 semaines. Et la seconde, moins contraignante, un confinement le week-end avec un maintien du couvre-feu en semaine. Et ce qu'on sait, c'est que le chef de l'État n'a pas choisi. Il hésite, car il veut être certain de ne pas se tromper. Du coup, il consulte à tout va. Le président a même demandé à ce que lui soient présentées aujourd'hui de nouvelles études de projection épidémique. En clair, à l'heure où je vous parle, rien n'a été acté. Enfin, un paramètre inquiète l'exécutif, le respect et l'application des restrictions, car les Français sont usés par les contraintes imposées depuis un an.
Les précisions de Louis Dragnel pour Europe 1 en Nouvelle-Calédonie, confinement prolongé d'une semaine jusqu'au 28 mars par le gouvernement local. C'est aussi aujourd'hui que l'on saura si les injections du vaccin AstraZeneca peuvent reprendre. Avis de l'Agence européenne des médicaments sur les possibles effets secondaires de la formule. 2020, année record pour les paris en ligne sportifs, hippiques et le poker. Plus de 5 milliards d'euros de mises engagées sur les compétitions sportives l'an dernier, du jamais vu depuis 2010 à la clé. Un chiffre d'affaires en hausse de plus de 20%. De nouvelles accusations formulées en Birmanie contre l'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi. Des faits de corruption lui sont désormais imputés. Déjà inculpée à 4 reprises, elle doit comparaître mercredi prochain. La victoire du PSG hier soir 3-0 contre Lille en 8e de finale de la Coupe de France. Notez aussi que c'est cet après-midi à 14h que Didier Deschamps dévoilera sa liste pour les premiers matchs qualificatifs pour le Mondial 2022. Ça commencera par l'Ukraine mercredi prochain au Stade de France.
Merci beaucoup Marion Calais. 8h33 sur Europe 1, Laurent Cabrol avec nous, c'est l'heure de la météo.
Nous retiendrons de cette journée qu'elle est... C'est une journée d'alternance, nuages éclaircis averses, des ondées en général assez discrètes, sauf sur la Normandie, la Haute-Normandie, la Picardie, le Nord, la Champagne-Ardenne, la région parisienne, cet après-midi pour la région parisienne, le Morvan. Dans ces contrées, on peut dire que les averses seront un peu plus fréquentes et parfois un peu plus fortes qu'ailleurs. Se présenteront sous forme de giboulées sur la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté. Et puis dans le sud-est, notamment sur les Alpes-Maritimes, un petit peu de pluie. Voilà, c'est pas une journée extraordinaire, mais les températures sont quand même bien froides, hein, malheureusement, en raison de la bise. Elles sont accentuées par cette bise venue du nord, entre 7 et 12 degrés, 9 à Paris, sous abri, 10 à Toulouse et 12 degrés à Saint-Nazaire.
C'est que le début, hein. Il va faire froid. Hein.
Ah, il va faire très froid.
Vous l'avez retenu, hein. Pour le coup, Laurent Cabrol vous le dit et vous le répète depuis plusieurs jours. Ouais. Il va faire beau, mais froid. Merci beaucoup, Laurent. 8h34. Vous restez bien sur Europe 1, on prend soin les uns des autres le matin. Dans un instant, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed.
Gisante, car contrairement à ce qu'elle laisse penser, vous allez voir qu'elle n'apporte aucune énergie, mais simplement des calories et des excitants.
Stop aux boissons énergisantes, on en parle. Notre planète avec Fanny Agostini et puis Nicolas Canteloup, la revue de presse. C'est avant 9h bien sûr. Très bon réveil à tous.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h36 sur Europe 1, notre santé. Bonjour docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Tous les matins, on prend soin les uns des autres dans Europe Matin. Alors avec la période quelque peu difficile, c'est un euphémisme, certains pourraient être tentés de se redonner un petit coup de boost avec des boissons énergisantes. On parlait du sommeil des Français hier en plus. Mais je crois savoir que c'est une mauvaise idée.
Exactement. Alors tout d'abord, j'aimerais vous rappeler qu'il ne faut pas confondre les boissons énergisantes de celles qui sont énergétiques, qui sont strictement différentes, même si les industriels jouent sur cette confusion. Tout d'abord, n'oubliez pas que les boissons énergétiques, elles s'adressent aux sportifs. Dans le cadre d'activités physiques intenses, comme le vélo ou la course à pied, elles vont contenir de l'eau pour s'hydrater, un peu de sucre qui peut être rapide ou lent en fonction de l'exercice, des sels minéraux comme le sodium, c'est du sel, du potassium ou du magnésium que vous allez perdre pendant un effort prolongé. Et puis aussi des vitamines du groupe B, à la différence des boissons énergisantes qui, contrairement à leur appellation, ne vont pas apporter d'énergie, c'est quasiment une publicité mensongère, elles vont vous apporter simplement des calories et des excitants.
Mais alors si elles n'apportent pas d'énergie, à quoi est-ce qu'elles servent ?
Alors, aussi, elles servent à des petites choses. La première chose, c'est à participer à la croissance de l'obésité. Car un des ingrédients principaux, et oui, c'est le sucre. 10 grammes de sucre pour 100 ml dans une canette. Alors, dit comme ça, on peut se dire que ce n'est pas énorme. Et pourtant, dans une canette, vous pouvez avoir l'équivalent de 10 morceaux de sucre simplement en buvant une canette. Ça veut dire que dès que vous avez bu ça, vous avez quasiment dépassé le nombre de sucres par jour recommandé par l'Organisation Mondiale de la Santé. Et puis, mine de rien, c'est un autre intérêt. Ça va permettre aux dentistes de ne jamais connaître le chômage. Oui, car ces boissons, elles sont propices au développement des caries. Et certaines études évoquent le potentiel érosif sur vos dents de ces boissons qui pourrait être supérieur aux autres boissons sucrées car elles sont plus acides. Et puis, elles vont contenir un peu de caféine, même beaucoup de caféine, 2 à 3 expressos dans une canette. Alors, sur le court terme, ça va un petit peu augmenter votre vigilance, mais si à côté de ça, vous en buvez d'autres, ou si vous buvez du café, vous allez avoir simplement les effets secondaires de la caféine, c'est-à-dire de la tachycardie, de l'énervement, et puis, si en plus de ça, vous faites du sport, ça va participer à la déshydratation.
Eh bien.
Enfin, c'est peut-être le plus important, n'oubliez pas que ça va potentialiser les effets de l'alcool, en particulier chez les plus jeunes. Donc libre à vous d'en consommer.
Oui, parce que ça se fait, vous avez raison, il faut le souligner, j'allais vous poser la question, vous parliez de sucre, ça se fait beaucoup aussi de mélanger avec l'alcool.
Exactement, et c'est le risque majeur, c'est la toxication à l'alcool, en particulier chez les plus jeunes. Donc vraiment, je vous recommande de le consommer de la façon la plus limitée possible. L'eau est largement suffisante, croyez-moi, on s'en sort très bien.
Merci Jimmy Mohamed, notre santé tous les matins. Et sans rendez-vous, l'émission Santé d'Europe 1 de 15h à 16h avec Mélanie Gomez. Au programme aujourd'hui,
le sommeil des enfants qu'il faut chouchouter, d'autant plus que la science a fait d'énormes progrès. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y a des enfants qui dorment mal, c'est aussi des parents fatigués.
Merci beaucoup Jimmy Mohamed, 8h39. Notre planète, à présent avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Oh là là, vous, alors là, vous entrez dans un débat, éternel débat, celui des éoliennes.
Allons-y.
Vous nous parlez, alors
oui.
Ce matin, une bonne nouvelle, une solution. Vous nous parlez de toutes nouvelles éoliennes qui vont nous étonner. Elles seront sans pales.
Mais oui, mais c'est vraiment très étonnant, Mathieu. Surprenant, déroutant. Les nouvelles éoliennes ne vont plus tourner, mais vibrer. Des éoliennes qui se servent également de la force du vent, mais qui n'ont plus besoin de ces gigantesques pales qui les rendent si imposantes, volumineuses, bruyantes. Vous allez bientôt les voir se dresser dans le paysage. Une avancée majeure pour les énergies renouvelables.
Alors comment est-ce que ça marche, ces éoliennes on peut dire éoliennes à vibration?
C'est ça, oui. Les concepteurs l'appellent d'ailleurs, pour la blague, le vibromasseur du ciel. Du coup, j'ai pas vraiment besoin de vous faire un dessin pour que vous puissiez vous imaginer à quoi ça ressemble.
Alors si j'étais taquin, je vous dirais si. mais je vous laisse développer.
Ben voilà, c'est une éolienne dans son plus simple appareil, sans ses pales tournantes. Alors, comment ça marche? Eh bien, la forme conique de la structure absorbe les mini-tourbillons que le vent génère et les concentre dans sa base où deux anneaux magnétiques circulent dans des trajectoires opposées. C'est le principe basique d'induction électromagnétique et ça donne effectivement un manche qui vibre à toute vitesse.
Incroyable. Si ces systèmes sont aussi efficaces que les éoliennes traditionnelles, on le sait ça ou pas?
Bah alors, rapporté à l'unité, oui, on le sait, les éoliennes vibrantes que je viens de vous décrire sont moins efficaces. Elles produisent un petit peu moins que les éoliennes à pales, mais elles sont moins coûteuses à l'unité, 50% moins chères tout de même. Et elles sont beaucoup moins volumineuses, comme je viens de le dire. Donc, qui dit moins de volume par unité, dit plus d'unités par surface. On peut en mettre plus.
Ah oui.
Leur moindre coût, oui, les rend plus accessibles, y compris aux particuliers. Hein. Mathieu, si vous voulez vous payer une éolienne pour être en autonomie énergétique chez vous.
Pourquoi pas, sinon.
En plus, elles sont moins menaçantes pour la faune. Ça, c'est un point important. Rappelons que si les éoliennes classiques sont si décriées, c'est qu'elles assomment, voire elles scalpent, les oiseaux. Avec cette nouvelle technologie, pas de problème. Il y a aussi l'avantage de diminuer la pollution sonore. Voilà là aussi une critique souvent faite contre les éoliennes. Là aussi, la question du bruit est réglée. Cela fait aussi baisser le coût d'installation et l'entretien de ces monstres mécaniques. Elles auront donc à l'avenir un rôle essentiel à jouer, ces éoliennes vibrantes, dans ce que l'on appelle le foisonnement des ressources énergétiques pour parvenir à combler tous nos besoins en électricité, oui, avec les renouvelables. Et pour ça, les petits projets qui visent à développer des solutions ingénieuses de captation d'énergie sont vraiment d'une grande utilité.
Mais oui, parce que même les écologistes entre eux se déchirent sur cette question des éoliennes. Alors là, si on n'a plus de pales, on tue plus les oiseaux et on fait moins de bruit. Voilà une solution. Merci Fanny Agostini.
Oui.
Tous les matins, notre planète, c'est sur Europe 1, 8h42. Et dans quelques toutes petites secondes, la revue de presse Nicolas Canteloup avec Julie qui s'est installée.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h45 sur Europe 1, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et on retrouve Sonia Mabrouk qui est toujours en studio avec son invité.
Mon invité aujourd'hui, le généticien Axel Kahn. Axel Kahn, bonjour.
Bonjour, Madame Mabrouk.
Oh là là. Ah mais oui, il l'a bien.
Alors, Axel Kahn, votre regard sur ce confinement auquel on se prépare, quel est votre regard?
J'ai décidé de ne plus commenter les décisions politiques. Et j'ai autre chose à faire en tant que président de la Ligue contre le cancer. Je me contenterai simplement de dire que c'était une connerie de ne pas confiner à Noël et en février. Vous savez, je suis catholique. Pâques, c'est important. J'adore la chasse aux œufs. Eh bien, on a pris la pire décision. Cette décision, c'est le président de la République qui l'a prise. Mais au-delà du président, il y a le Premier ministre, pour qui j'ai un profond respect. Mais il déconne à plein tube.
Alors, Axel Kahn, est-ce que le vaccin AstraZeneca est encore fiable? Quel est votre regard?
J'ai décidé de ne plus critiquer quelque vaccin que ce soit. Mais force est de constater que c'est de la merde.
Mais pourtant, Axel Kahn, en Grande-Bretagne, les Anglais continuent à vacciner à tour de bras.
J'ai décidé de ne pas critiquer nos voisins, quels qu'ils soient. Mais il y a deux possibilités. Soit les Anglais sont des cons, soit sont inconscients.
Alors, Axel Kahn, peut-être pour terminer un mot encourageant, quelque chose de positif, je ne sais pas.
Bien, il faut savoir que nous allons continuer à vivre.
Merci, oui.
À manger, à respirer. Mais un jour ou l'autre, on va tous crever, enfermés comme des chiens sur nos canapés. Mais vous ne me ferez pas tomber dans le piège de critiquer quoi que ce soit.
Merci, Axel Kahn.
Très, très bien.
C'est nouveau, Axel Kahn.
Ah, vraiment,
ouais, génial.
Il a bien la voix. Hein. Faut qu'il revienne demain, lui. Hein. Allez, non, on vous passe la parole, Mathieu, pour les infos du jour.
Oui, ma chère Julie. Ah, bonjour, bonjour, l'info ce matin. C'est bien sûr la conférence d'Olivier Véran et Jean Castex tout à l'heure qui vont nous dire qu'on va être. Eh oui, certainement, on a des infos, bien sûr, Europe 1, on est bien placé. On va être certainement reconfiné. L'annonce qui faut le dire. Qu'est-ce qui se passe? C'est votre anniversaire, Julie?
Non.
Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, le confinement! Bonjour, c'est moi, votre joyeux Premier ministre! Et vive, cette semaine, cela... Eh oui, vous l'aviez oublié! Cela fait un an que le premier confinement a été prononcé. Alors, pour fêter cela, oui, monsieur Cabrol, venez avec votre bouteille. Nous vous offrons un autre confinement pour vous rappeler des bons souvenirs du premier. Hein, souvenez-vous, ces bons souvenirs, les pâtes, le papier toilette à profusion, happy birthday to you!
Oui, écoutez, on s'en serait bien passé, hein, monsieur Castex. Mais les gens vont déprimer, hein, je vous jure.
Oh, pas forcément. Jusque-là, vous savez, les gens ont toujours préféré le confinement au couvre-feu. Parce que les magasins, dans le cadre du confinement, ferment quand même plus tard.
Ah bon? Ça va être le cas?
Non. Non,
ah bah
ça
alors.
Fermera même peut-être à 17h.
Ah bah
donc vous voyez, oui. Non. Il n'y a pas de. Oui, non, parce que je peux dire oui ou non, tout
oui,
et
oui,
son contraire.
Enchaîné,
non, il n'y a pas de raison de s'en faire. Tout va être comme avant, mais en mieux. Voilà, vous aurez encore plus de temps pour regarder la télé. Je dis à nos concitoyens, quelle belle année vous vivez, Français, en regardant la télévision. Vous nous aiderez quelque part à sauver des vies. Sachez-le, chaque fois que vous entendrez cette musique, vous saurez que vous avez sauvé une vie. Et oui, c'est le générique de Feu de l'amour. Ceux qui regarderont tous les épisodes seront même décorés de la Légion d'honneur pour avoir sauvé des vies, car vous êtes des héros,
oui,
téléspectateurs des Feux de l'amour.
Merci Jean Castex et à ce soir. Hein. Allez, la Haute Autorité de Santé a donné son feu vert aux autotests. On peut désormais se tester chez soi. Olivier Véran, vous êtes ministre de la Santé, bonjour.
Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour Monsieur Béliard. Effectivement, vous pouvez dès aujourd'hui vous tester chez vous au moyen de coton-tige avec lequel vous raclez vos narines. vous déposez le mucus sur réactif chimique. Et cela, si cela devient bleu, c'est que vous êtes enceinte. sauf pour les hommes, oui. Oh, pardon, non, excusez-moi parce que j'ai très peu dormi. Nous avons préparé, après le conseil de défense, nous avons préparé la conférence de ce soir. Bon, en tout cas, si ça réagit, c'est que vous êtes positif. Alors, si vous êtes positif, vous pouvez vous soigner chez vous pour désengorger, bien sûr, les hôpitaux. Alors, se soigner chez soi.
Se soigner chez soi, mais comment ça va se passer, dites-nous.
Vous prenez votre température, vous étudiez vos symptômes, oui. Et après, vous trouvez quel est le meilleur médicament pour votre cas. Si ça tourne mal, vous pouvez vous mettre en auto-réanimation afin de désengorger, bien sûr, les hôpitaux et les services de santé.
En auto-réanimation ? Mais attendez, c'est un métier, ça ?
Non, écoutez, c'est beaucoup plus simple que l'on imagine. Vous reliez un vélo d'appartement à un tuyau d'arrosage. Votre conjoint peut pédaler pour envoyer de l'air dans le tuyau. D'autre part, si vous avez une maladie qui n'est pas liée au Covid,
oui.
Par exemple une appendicite, vous avez toujours à votre disposition la possibilité de vous auto-opérer sur la table de cuisine à l'aide d'une roulette à pizza, du sopalin et n'oubliez pas une pince à cornichon. Afin bien sûr toujours de désengorger les hôpitaux et les services de santé. Mais...
Faut que j'achète une roulette à pizza, moi, dites-moi, j'en ai pas.
Le mieux, bien sûr, le mieux, c'est encore ne pas tomber malade. Alors faites du sport, mangez 5 fruits et légumes par jour et surtout, priez.
Les conseils d'Olivier Véran, ben bravo. Emmanuel Macron était
tiré. Bien prier, mais enfin, il n'y a plus Pâques, alors j'adore la chasse aux œufs.
Emmanuel Macron était hier en visite dans un service de réanimation justement d'un hôpital à Poissy pour se rendre compte des conditions de travail dans cet hôpital saturé. Et nos équipes étaient sur place, bien sûr.
Oui, bonjour à tous. Merci de me recevoir. Merci de me recevoir. C'est vrai que vous faites un travail formidable. Nous serons à vos côtés. Nous sommes aux côtés avant de prendre des décisions, bien sûr, lourdes. Décision à venir, peut-être de reconfinement. Je souhaitais vous visiter pour voir comment cela se passait.
Oui, docteur, merci, monsieur. Et ça, vous le voyez, c'est l'enfer. On croule sous les malades, là.
Infirmière, s'il vous plaît. Mademoiselle, venez m'aider. J'ai monsieur Crémieux, là, qui nous fait un arrêt cardiaque. Là. Dépêchez-vous. Oui, je vois qu'il y a une urgence. Oui, donc je souhaitais vous consulter pour savoir s'il fallait reconfiner. Nous sommes tous avec vous.
S'il vous plaît, monsieur le président, ne restez pas dans vos pattes, là, parce que ça gêne. Ah. Le défibrillateur, là, s'il vous plaît, on est en train de le perdre, là. 3-4, envoyez.
Parce que c'est vrai que... C'est bien, je vois que vous faites un travail formidable. Mais c'est vrai que nous hésitons encore. Vous savez, c'est une décision lourde à prendre. La région Île-de-France est une décision impactée. Alors, on croit que c'est facile de prendre ce genre de décision en tant que président, mais si je vous racontais à quel point... C'est parfois difficile de prendre ce genre de décision, vous ne croiriez pas. Donc d'après vous, vos services sont vraiment à saturation ? Vous pensez que...
Mais qu'il confine y a... là ta région, arrête de faire chier. Qu'est-ce que tu fous dans un service de réanimation saturé avec 30 caméras et toute ta clique, hein ? Qu'est-ce que t'as besoin de renseignements ? Ça fait 6 semaines qu'on te dit que c'est la merde, hein ? Qu'est-ce qu'il te faut de plus ?
Ça va, merci les humains, oulala. Vous avez entendu même, Julie ? Dialoguer, je viens me documenter, voilà comment je suis accueilli ici. Si je pouvais, je les reconfinerais eux aussi, tiens, les services de santé.
Plus que ça, oui. Allez, bonne journée quand même, monsieur le président. Ziad Takieddine avait retiré ses accusations contre Nicolas Sarkozy dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. Mais cette semaine, il a encore changé d'avis et il l'a à nouveau accusé.
Mais quelle indignité, Mme Pyjamas. Mais c'est n'importe quoi. Comment vous pouvez croire ce revirage scandaleux? Un revirage à 360 degrés Celsius. C'est une indignité. C'est une indignité. Cet homme, Ziad Takieddine, est un menteur. Ce sont des propos totalement menteuristes.
Ah, c'est un menteur.
Un menteur complutif. Il ment comme il respire.
Mais attendez, il mentait quand il vous a innocenté, il y a quelques mois?
Là, il était honnête.
Ah, tiens, il était honnête, là, ouais.
C'est la seule fois de sa vie qu'il a été honnête. Tenez, attends, Ziad, viens voir une seconde. Pourquoi que tu mens comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait, moi?
Oui, je sais, Nicolas, j'ai menti. Je n'aurais pas dû dire que tu étais innocent la dernière fois. Voilà.
Non, mais la dernière fois, là, tu mentais pas, là, tu disais la vérité. Mais pourquoi que tu as changé de version?
Parce que je te l'ai dit, je mentais.
Non, là, tu mens, t'es un menteur, là.
Bah, c'est ce que je dis.
Oh putain, il m'a tout embrouillé, là. Mon seul espoir, c'est que les juges s'y retrouvent plus non plus. Et encore, vu que maintenant on condamne les innocents, vous l'avez vu, tout ça, ça s'annonce mal, Mme Julie. Ça s'annonce mal, on condamne les innocents.
Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Allez, à bientôt, M. Sarkozy. Et puis Jean Lassalle a décidé de venir nous voir, car il a, semble-t-il, une annonce à faire. Bonjour Jean Lassalle.
Ah. Bonjour, Mme Julie, bonjour, M. Béliard, bonjour, M. Cabrol, et à tout votre troupeau. Attendez, avant de vous parler, soyons prudents. Je vais, si vous permettez, moto. Vous voulez que j'accélère un peu le débit?
S'il vous plaît, parce qu'on va se prendre le carillon.
Dans ça, il faut savoir marquer le suspense. Je vais, avant de vous parler, être prudent, moto-tester.
Ah. Oula.
Pour savoir si je n'ai pas le Covid. Je ne voudrais pas vous contaminer à la veille des fêtes de Pâques.
C'est sympa.
Je vous m'en voudrais. Alors, mon coton-tige, vous voyez, c'est un coton-tige maison. Vous voyez ?
Ah, c'est quoi ?
Un balai avec une serpillière au bout, vous voyez bien, il est en face de vous.
Oh non, mais c'est
vous avez la vue qui baisse, chère Julie. Voilà. Oui, je perds l'équilibre un peu. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est vrai que j'ai le nez un peu fort,
oui,
monsieur Béliard. L'a constaté, c'est un journaliste averti. Alors, voilà. Allez, je le mets à la narine gauche. Voilà. Et je tourne. Et je tourne. Et je tourne. Oh merde! Ah putain, j'ai trop baissé la tête. On va esquiver ce truc. Ah, je l'ai lâché. J'ai perdu mon compte-tige, je m'en ai. Voilà, Julie. Prenez une lampe de poche. Regardez si vous ne voyez pas.
Oh non, pitié, non.
Mon coton-tige.
Non, moi je ne vais pas chercher un balai. Non.
On va venir vous aider, monsieur Lassalle. Bravo Nicolas Canteloup et ses auteurs, Philippe Cabrivière, Laurent Vassilio, Arnaud Demanche, de la revue de presse, Nicolas Canteloup et Julie, à retrouver sur Europe1.fr. À 8h57, nous accueillons Philippe Vandel pour Culture Média. Enfin, nous accueillons. Oui. Je laisse ma place à Philippe Vandel.
Bonjour Philippe. Bonjour Mathieu. On va commencer par un bol d'air, notre infomédia qui s'intéresse aux forêts françaises à travers un doc pour Ushuaïa TV. Il y a de plus en plus de forêts, mais parfois très mal gérées. Il y a également des images sublimes. On en parle avec le réalisateur de ce temps des forêts. Il s'appelle François-Xavier Drouet. Au sommaire également, Gloria, nouvelle mini-série à suspense de TF1 qui démarre ce soir. C'est inspiré d'une fiction galloise. On en parle avec son héroïne. C'est la comédienne Cécile Bois qui fait des infidélités à France 2, parce qu'elle est connue pour Candice Renoir, et la productrice Iris Boucher. Et puis, le comédien Jean-Pascal Zadi, vous l'avez vu vendredi soir au César. César du meilleur espoir masculin pour Tout simplement noir, son propre film dans lequel il joue. Il va nous présenter la saison 2 de sa succulente série Craignos, qui devient carrément Craignos.
Et c'est sur Europe 1. J'ai mon micro, ça marche mieux. Culture Média avec Philippe Vandel de 9h à 11h. Je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous. Je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.